Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 27, Une chauve-souris dans la lumière. Le temps qui me reste à vivre est de plus en plus court. Ce manuscrit que j'achève d'écrire sortira en contrebande de la prison par les soins d'un homme sûr. Il ira dans les mains d'une autre personne en qui je puis avoir également toute confiance et qui veillera à sa publication. Je ne suis plus au quartier ordinaire des assassins, mais dans la cellule de la mort où j'ai été transféré. On a placé près de moi pour mes pieds la garde de la mort. Elle veille nuit et jour sans s'éloigner, et sa fonction paradoxale est de s'assurer que je n'attente pas à mes jours. Je dois être conservé vivant pour la pendaison. Autrement, le public serait dupé, la loi bafouée, et une mauvaise note en viendrait au gouverneur de cette prison, dont le premier devoir est d'avoir soin que les condamnés soient dûment et proprement pendus. Il y a des hommes, et je les admire, qui ont une singulière façon de gagner leur vie. Cette séance où j'écris est la dernière. L'heure a été fixée à demain matin. Quoique la Ligue contre la peine de mort soit occupée en ce moment à fomenter en Californie un important mouvement contre cette peine, le gouverneur de la prison de Folsom a refusé tant de me gracier que de sursoir seulement à l'exécution. Déjà, les reporters sont assemblés, je les connais tous. S'il en est parmi eux qui sont mariés, la description de l'exécution du professeur Standing et de la façon dont il est mort au bout d'une corde paiera les souliers et les livres d'école de leurs enfants. Bizarre, bizarre, je parierais qu'une fois l'affaire faite, ils en seront plus malades que moi. Tandis qu'assis dans cette cellule, je médite sur toutes ces choses, j'entends, hors de ma cage, monter et descendre dans le corridor, le pas régulier de mon gardien. Lorsqu'il passe devant le guichet, je vois son œil méfiant rivé sur moi. J'ai vécu tant de vies que je suis là, par moments, de cet éternel recommencement. Que de tracas sur cette terre. Ce que je souhaiterais dans ma prochaine réincarnation, c'est d'occuper tout bonnement le corps non plus d'un professeur, mais d'un simple et paisible fermier. De grandes prairies d'alpha, un bon bétail de vaches jerseyaises, des pâturages couvrant les pentes de collines broussailleuses et venant border des champs labourés, une eau abondante qu'au moyen d'une digue j'amasserai dans un bassin profond d'où je la dirigerai ensuite vers mes champs par des canaux d'irrigation. Car, observez ceci, l'été qui est long et sec en Californie constitue un grand obstacle à une culture intensive. Un terrain convenablement irrigué pourrait facilement au contraire fournir avec de bons engrais 3 récoltes par an. Voilà, oui, quel serait désormais mon rêve. Je viens de subir, je dis bien subir, une visite du gouverneur de la prison. Il est tout à fait différent du gouverneur Atherton de Saint-Quentin. Récemment promu dans sa fonction, il était très ému, très énervé, et c'est moi qui ai dû l'inviter à parler. C'est sa première pendaison, il me l'a franchement avoué. Moi, pour tâcher de le dérider de mon mieux, je lui ai spirituellement répondu que c'était aussi la première fois qu'on me pendait. Mais j'en fus pour mes frais, et il demeura morne et triste. C'est au surplus un homme qui a des ennuis domestiques. Il a 2 enfants, une fille qui suit les cours de l'école secondaire, et un fils étudiant de première année à l'université de Stanford. Il ne possède pas de fortune personnelle et n'a que son traitement pour vivre. Sa femme est infirme et lui-même est d'une santé médiocre. Il a essayé de contracter une assurance sur la vie, mais les médecins de la compagnie ont estimé qu'il constituait un risque indésirable. C'est lui qui m'a confié tous ses tracas. Une fois parti, il ne s'arrêtait plus et ne s'apercevait pas qu'il me rasait avec toutes ses histoires. J'ai dû interrompre poliment l'entretien, sans quoi il serait encore là. Mais je m'aperçois que j'ai moi-même omis de vous conter exactement comment je me trouve ici. Délivré de la camisole, je passais encore dans ma cellule d'isolement de Saint-Quentin 2 années déprimantes et mélancoliques. Ed Morel, comme je l'ai dit, après avoir été tiré de sa cellule, fut, par une chance inattendue de lui-même, nommé homme de confiance en chef de la prison. Il succéda à Hutchins dans cet emploi, qui valait à son titulaire un bénéfice net de $3,000 par an. Quand il ne fut plus là, je me trouvais bien seul. Jack Oppenheimer, qui pourrissait depuis tant d'années dans son cachot, s'était à la longue aigri le caractère. Il en voulait à l'univers entier. Pendant 8 mois, il refusa de parler à personne, pas même à moi. C'est une chose incroyable que la rapidité avec laquelle les nouvelles se répandent dans une prison. Un peu plus lentement, mais infailliblement, elles arrivent jusqu'aux cellules mêmes d'isolement. C'est ainsi que j'appris un beau jour que Cecy Winwood, le faussaire poète, le froussard, le traître et le mouchard, était revenu à Saint-Quentin afin d'y purger une nouvelle condamnation pour un autre fou qu'il avait commis. On se souvient qui était ce Cecil Winwood, qui avait fabriqué de toutes pièces l'histoire de la dynamite, reçue soi-disant par moi et que j'avais cachée. C'est lui qui était responsable de tout mon malheur. Je décidai de tuer Cecil Winwood. Vous comprenez la situation? Morel était parti, Oppenheimer, comme je l'ai dit, était devenu muet. Cela lui dura jusqu'au jour où, ayant fortement malmené un de nos gardiens qu'il frappa avec le couteau à pain, il s'en alla à son tour, mais pour être pendu, comme je vais l'être moi-même. Il y avait un an que j'étais seul. Il fallait bien que je m'occupe à quelque chose. Je me reportais donc à l'époque lointaine où j'étais Adam Strong et où patiemment je couvais 40 ans durant l'espoir de ma vengeance. Ce qu'Adam Strong avait fait, je pouvais le refaire en refermant à nouveau mes mains sur la gorge de Cecil Winwood. Je me procurais 4 aiguilles. Comment? N'espérez pas que je vous le dise. C'étaient de toutes petites aiguilles, bonnes à coudre de la batiste. J'étais tellement amaigri qu'il me suffisait de scier les 4 barreaux de mon guichet pour que mon corps pût passer au travers. Je sciai ces barreaux. Pour chacun d'eux, c'est-à-dire pour 2 coupures, une en haut, une autre en bas, j'usai 1 aiguille. Et chaque coupure me demanda 1 mois de travail. Il me fallut donc 8 mois au total pour me frayer un chemin. Malheureusement, je brisai ma 4e aiguille sur le dernier barreau avant d'en avoir terminé. Et il me fallut attendre 3 mois encore avant de pouvoir me procurer 5e aiguille. Finalement, j'achevai mon œuvre et réussis à sortir. J'avais tout calculé. La chance certaine que j'avais était de rencontrer Cecil Winwood au réfectoire à l'heure du déjeuner. J'attendis donc le moment où Jones, face de tourte, prendrait à midi son service. Face de tourte, vous le savez, était ce gardien qui dormait continuellement. Il faisait chaud et il ne tarda pas en effet à ronfler. J'achevai de faire sauter mes barreaux et me faufilai à travers le guichet, en me comprimant fort, opération à laquelle la camisole m'avait habitué. Après quoi, je passai devant face de tourte, atteignis l'extrémité du corridor et me trouvai libre dans la prison. Mais alors advint la seule chose que je n'avais pas prévue. Il y avait 5 ans que j'étais enfermé dans ma cellule d'isolement. J'étais effroyablement et hideusement faible. Mon poids était tombé à 64 livres, mes yeux étaient presque aveugles. Je fus soudain, en me trouvant dehors, frappé d'agoraphobie. L'espace qui m'environnait m'épouvanta. 5 années dans cette cage étroite m'avaient rendu incapable de descendre la pente vertigineuse de l'escalier qui s'ouvrait devant moi. Je l'essayai cependant et y réussis. Ce fut l'acte le plus héroïque que j'eusse accompli dans toute ma vie. Et j'arrivai ainsi à l'une des cours intérieures de la prison. La cour, à 7 heures, était déserte. Le soleil éblouissant y dardait en plein ses rayons. Par 3 fois, je tentai de la traverser, mais la tête me tourna et je dus chercher une protection dans l'ombre que projetait un de ces murs. Un peu remis, je raidis de rechef mon courage et renouvelai mon essai. Mes pauvres yeux chassieux, médusés comme ceux d'une chauve-souris, me firent tressauter d'effroi à la vue de mon ombre qui s'étendait devant moi sur les pavés. Je m'efforçai d'éviter mon ombre, trébuchai puis tombai sur elle. Alors, comme un homme prêt à se noyer qui fait effort pour atteindre le rivage, je rampai sur les genoux et sur les mains vers l'abri du mur sauveur. Je mis à côté et me pris là à pleurer. Il y avait bien des années que je n'avais versé de larmes. Je me souviens encore d'avoir senti dans cette ultime détresse la tiédeur de mes pleurs qui roulaient sur ma joue et la saveur salée qu'en les atteignant ils mirent à mes lèvres. Un frisson me saisit, semblable à un accès de fièvre intermittente, et en dépit de la chaleur torride du soleil dans cette cour étroite, je me mis à trembler de tous mes membres. Je reconnus que traverser la cour constituait un exploit dont j'étais incapable, et toujours pantelant, j'entrepris de la contourner, accroupi contre le mur et m'y appuyant des mains. C'est dans cette position que le gardien Thurston, qui m'épiait depuis quelques instants, vint s'emparer de ma personne. Je le vis déformé par mes yeux chassieux, espèce de monstre énorme et bien nourri, démesurément grossi qui fonçait sur moi avec une vitesse vertigineuse. Il n'était en réalité qu'à 20 pieds de moi et il me parut qu'il surgissait de l'infini. Il pesait dans les 170 livres et l'on se rend facilement compte de ce que, dans les conditions où nous étions, pouvait être une lutte entre nous. C'est au cours de ce bref combat qu'il prétendit avoir reçu de moi un coup de poing sur le nez, coup de poing si terrible, que le sang coula. Toujours est-il qu'étant un condamné à vie, et que pour un condamné à vie qui se livre à des voies de fait, la loi de Californie prévoit comme châtiment la peine de mort, je fus ainsi déclaré coupable et frappé par le jury. Celui-ci ne pouvait légalement ne point tenir compte des affirmations solennelles du gardien Thurston, auxquelles se joignirent celles des autres chiens pendeurs de la prison, qui ne firent point faute de me charger. L'arrêt était inévitable. Durant tout le trajet que je dus parcourir en sens inverse pour regagner ma cellule, et notamment au cours de la remontée du vertigineux escalier, je fus gentiment roué de coups, tant par Thurston que par la nuée d'auxiliaires accourus pour lui prêter main forte. Coups de pied, coups de poing essoufflés, il en pleuvait. Si le nez de Thurston a véritablement saigné, ce que je me garderai d'affirmer, ce dut être probablement au cours de la mêlée du fait d'un de ses acolytes trop zélés qui cognit à tort et à travers. J'en dégage pleinement ma responsabilité, mais le prétexte n'en était pas moins excellent pour me pendre.